Bonjour les amis, ravi de passer ce dimanche avec vous en compagnie de Jean-Pierre Fleury. Deux petits éléphants pour vous, avec des cerveaux bien développés quand même. On en parlera bien sûr de cet éléphant.
Et on va faire le coup des poches avec les grandes oreilles.
Avec les grandes oreilles, oui, c'est ça. Ouais.
Bah bravo.
Voilà, on va parler de ce pachyderme qui est plus grand que celui de n'importe quel autre animal terrestre ayant jamais existé. Et c'est le poids du cerveau, on en parlera à la naissance, hein, qui détermine la capacité à apprendre, paraît-il. En tout cas, lui, apparemment, il a un cerveau de 5 kilos, c'est quand même pas mal. On va en parler avec Jean-Pierre. Bienvenue à Patrick Besson et à Stéphane Casalon qui réalisent cette émission.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Bonjour vous.
Ça va bien ?
Oh bah écoutez, oui, toujours bien, en pleine forme.
Alors, sommes-nous des éléphants ou sommes-nous des dinosaures ?
Alors, nous tous les deux, je pense qu'on est des dinosaures.
Voilà, oui. Ça me fait rigoler quand j'entends ça. Oh, c'est un dinosaure de la télé.
Oui. Non, bah, en revanche, j'étais assez surpris, puisqu'on va parler de cet animal assez extraordinaire, c'est que le cerveau d'un éléphant nouveau-né est à environ 35% de son poids adulte. C'est quand même considérable, quand même, quoi.
Oui,
ben je sais pas. Et qu'il a une mémoire.
Il a une mémoire d'éléphant, oui, ça c'est sûr. On en reviendra là-dessus. Il y a plein de choses à dire sur ces gros pépères. Avant de passer en revue les ancêtres et puis la famille actuelle, qui est extrêmement restreinte d'ailleurs, on va quand même rappeler que les éléphants d'Afrique sont les plus gros,
hein. Et Asie les plus petits.
Asie plus petit. 7 tonnes pour les mâles, le record est quand même à 12 tonnes.
Wow.
Alors c'est à peu près les dinosaures. On disait, je pense qu'un diplodocus adulte devait avoir à peu près cette taille-là. C'est le plus gros animal actuel et le plus gros de tous les temps, c'est le rorqual bleu, qui est un mammifère aussi.
Mm-hmm.
Le rorqual bleu, lui, alors c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est 15 fois le poids.
Il existe toujours ?
Ah oui, c'est le rorqual. Il y a deux sortes de rorquals, deux espèces de rorquals. Il y a le rorqual commun, qui est celui qui croise nos côtes actuellement. Qui ne fait que, alors lui, effectivement, il doit faire ses 30 tonnes, quoi. Et l'autre peut faire jusqu'à 180 tonnes, le rorqual bleu. C'est le plus gros animal qui ait jamais vécu sur cette terre.
Hein,
effectivement, il est dans l'eau, mais c'est un mammifère aussi. Il est dans l'eau.
Ah oui, d'accord.
Il est beaucoup plus gros que les baleines, hein, que les dinosaures et que le reste des baleines, pardon. Mm-hmm. Il est 50 000 fois plus gros qu'un autre mammifère. Qui lui est dans nos parages, c'est la musarine pygmée. C'est la même chose, c'est la même bestiole, hein, mais simplement qu'il y en a une qui fait 2,5 grammes et l'autre qui fait 180 tonnes.
Ouais.
C'est la merveille de la nature. Il n'y a pas tellement de. Les composants sont les mêmes, quoi.
Ah, c'est curieux, ça.
Alors, les ancêtres. Le Deinotherium. Alors, c'était un gros pépère qui faisait. Alors, il y avait des tout petits, il y en avait des nains aussi. À cette époque-là, ce qu'on appelle les probosibiens actuels, il y en avait 350 espèces. Hein. Donc, dans ces époques-là. Et en plus, on en redécouvre tous les jours, hein, parce que c'est certain que, il se montre pas comme ça. C'était un animal qui avait un animal qui avait une trompe relativement courte, qui avait des défenses courtes, massives, mais tournées vers le haut.
Hein. Ah, c'était les fameux qui avaient en forme d'escargot, quoi.
Non, ça, c'était les mammouths, ça.
Ah, c'était les mammouths.
Les mammouths, on va arriver. Ils ont vécu en Europe et pourquoi pas en Corse, d'ailleurs, puisqu'on retrouve on en a retrouvé des petits bouts, si j'ose dire, en Grèce, hein. Il y avait aussi un éléphant nain qui a vécu en Crète il y a encore 5000 ans, pardon, simplement.
Hein.
Donc ça fait partie des ancêtres potentiels. Alors, des plus gros qu'il n'y a pas eu ici, le Mummatus sangari.
À votre
souhait. 5 mètres 30 de haut au garrot, 9 mètres de long, 17 tonnes. Celui-là, il a vécu en Mongolie. Et plus gros encore, le Paranotherium, au Balouchistan. Le Balouchistan, c'est à la frontière entre le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan.
D'accord.
5 mètres au garrot, 8 mètres de long, 20 tonnes.
Ouf.
Il ressemblait à un rhino. Hein, c'est... Donc voilà. Et puis bien sûr, alors il y a les contemporains, si j'ose dire. Hein, il y a les mammouths et les mastodontes, puisque c'est la même mammouth, c'est plutôt vers l'Europe, les Sibériens, mastodontes, c'est les cousins américains. Donc alors maintenant on arrive aux actuels, si j'ose dire.
Ah oui.
Hein, il y a trois espèces simplement. Il y a deux africaines, donc le grand éléphant de savane qui est le plus lourd, le petit éléphant de forêt. Hein, qu'on appelle l'assala, qui est un vrai petit teigneux. Celui-là, quand il a... Les gens en ont peur. Moi, je les ai filmés, on s'est fait charger, et les guides se disaient, ça y est, il a bouffé le liboga. L'iboga, c'est quelque chose qui est dans la nature, hein, c'était au Gabon. C'est un excitant à la fois. Les hommes prennent ça pour. C'est un peu le doigt bandé d'ailleurs. Et ben, ça énerve énormément ces éléphants et ils vous rentrent dans le chou sans sommation. Donc là, ça avait été très chaud cette histoire-là. Alors, au crépuscule, comme ça, en rentrant. Quand
c'était
ça
où
se met
au Kenya,
à barrir.
Au Kenya.
Non, c'était dans la forêt équatoriale au Gabon. C'est un éléphant de forêt. Il y a une constante. Les animaux qui vivent en pleine forêt sont très souvent, enfin c'est une constante, ils sont très souvent plus petits que les animaux de savane. Les buffles sont plus petits, les éléphants sont plus petits.
Ils s'adaptent à la nature, quoi.
Voilà, et s'en arrive, ils sont tellement adaptés depuis tellement longtemps que ce sont des espèces différentes.
D'accord.
Et le troisième, c'est l'éléphant d'Afrique. Alors on peut montrer la différence qui est entre ces deux animaux, hein, ces deux espèces. On a dit, alors d'abord le poids moyen d'un mâle adulte africain, 7 tonnes. Le latin, c'est l'Oxodonta africa. L'autre, il s'appelle Elephas maximus. Il est maximus, mais il est plus petit.
Parce qu'il
ne fait que 5 tonnes. C'est déjà pas mal. Hein. Les oreilles de l'éléphant d'Afrique sont plus grandes.
Ouais.
Ça, c'est net. Les défenses, en Afrique, les mâles et femelles ont des défenses.
Ouais. Hein.
Alors que les éléphants d'Asie, seul le mâle en a.
Mm-hmm. Hein,
un truc marrant, au bout de la trompe, il y a des protubérances.
Ouais.
Pratiquement des doigts. L'éléphant d'Afrique, ça a une forme d'amande, parce qu'il y a deux doigts comme protubérance. Et ces doigts, c'est extraordinaire. C'est avec ça qu'ils sont capables, avec le bout de leur trompe, de pratiquement déplucher une cacahuète.
C'est
des doigts, c'était vraiment préhensile. On reviendra sur les performances de la trompe, c'est absolument fantastique. L'éléphant d'Asie, lui, n'a qu'un doigt, c'est en forme de poire. Le nombre d'orteils n'est pas le même. Hein. 4 devant, 3 à l'arrière pour l'Africain, et 5 à l'avant, 5 à l'arrière pour l'Asiatique. Donc
ouais.
la trace laissée n'est pas la même. Hein.
D'accord.
Le dos de l'éléphant d'Afrique est droit, l'éléphant d'Asie, peut-être parce qu'il est dressé, il a le dos rond en tout cas. La tête de l'Africain, il y a une bosse sur la tête, il y a une bosse, l'Asiatique 2. Bon, puis on sait que la domestication, actuellement en tout cas, il n'y a que l'éléphant d'Asie qui soit domestiqué.
Ouais.
Il y a bien sûr 2 ou 3 exceptions en Afrique. Ce qui est assez étonnant, c'est que les éléphants d'Afrique, on s'est aperçu qu'ils étaient domestiqués il y a environ 2 millénaires, jusqu'à la fin des empires égyptiens et autres. Mmh. C'était les éléphants de guerre, étaient des éléphants africains aussi.
Donc on les voit d'ailleurs dans sur des dessins. On voit d'ailleurs effectivement en Égypte, ils sont armés en plus. Hein.
Ah oui, tout à fait, oui. Mais d'ailleurs, bon, on verra quand on va évoquer leur rôle de soldat, mais c'était pas, il fallait faire attention quand même des fois parce qu'ils avaient peur des bruits du combat et ils allaient pas toujours dans le bon sens. Les populations, alors là, c'est pas de chagrin, hein, des Africains, il y en a dans 37 pays, des Asiatiques dans 13.
Et en voie de disparition en Afrique d'ailleurs.
Non, pas de disparition, de raréfaction.
De raréfaction, voilà. Ouais,
pour pouvoir être optimiste, gardons justement la valeur des termes. Il y en aurait 400 000 actuellement, hein, alors que justement là où on se dit que ça diminue, puisque on estime qu'en 1900, il y en avait 10 fois plus, qu'il y en avait 4 millions.
Et c'est dû à quoi?
C'est dû à leur habitat qui devient une peau de chagrin. Ça dû au fait qu'entre temps, toute l'Afrique s'est armée. Hein. À chaque fois qu'il y a une guerre moderne en Afrique, les gens sont armés, qu'ils ont besoin de viande, qu'ils tapent là-dedans, soit pour manger, soit pour s'amuser, etc.
Il y a aussi la curée avec
Elle existait déjà.
Elle existe déjà, la chasse à l'ivoire.
Mais bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup plus. L'ivoire était, jusqu'en 1900, était travaillé. Il ne pouvait pas avoir un piano sans ivoire. Il ne pouvait pas y avoir une cuillère sans ivoire. On s'en servait beaucoup plus que maintenant. En Asie, il y aurait 50 000 éléphants sauvages. Et il y en avait 150 000 il y a 60 ans. On rappelle quand même qu'il y a énormément là, j'ai parlé des sauvages, il y a énormément d'éléphants domestiques. On décrit un petit peu le gros
père. On commence par quoi?
La tête.
La tête,
il y a quand même des choses un peu bizarres. Hein. Je parle pas des oreilles. Les oreilles qui sont immenses, c'est des feuilles de choux.
Et tout petits yeux.
Des tout petits yeux, oui, ça c'est certain. Mais il a quand même le nez en plein milieu de la figure.
Ah, c'est beau, bon, moi, ah, plus dire.
Alors, on l'a dit, hein, en langage savant, c'est proboscis, hein, la trompe. Donc, c'est des proboscis bien. Mm-hmm. C'est la fusion, ça c'est amusant, de la lèvre supérieure et du nez.
De la lèvre supérieure et du nez, ouais.
Et oui. Hein. Alors, ça, cette trompe qui peut peser quand même une centaine de kilos, c'est quelque chose de très très délicat. C'est très fort et en même temps très très habile. Hein, je vous l'ai dit, ça peut éplucher une cacahuète. C'est mu par 150 000 muscles.
La trompe, hein ?
La trompe.
150 000 muscles ?
Oui. Vous rendez compte, l'ordinateur qu'il faut derrière, hein. Ouais. C'est fait pour apporter du liquide à la bouche
et, oui,
et de la nourriture.
Ils boivent par là, oui.
Hein, ils boivent par là, c'est... non, ils apportent. Autrement, ils avaleraient par le nez.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et oui, donc ils prennent, c'est un tube creux, hein, ils prennent, ça contient environ 10 litres, une dizaine de litres, ils remplissent le tube et après, ils le vident dans la bouche.
Dans la bouche.
Voilà.
Ah, et puis ils se servent aussi de leur trompe pour s'envoyer des choses sur le dos.
Ah oui, tout à fait. Alors c'est un aspirateur dans un sens, un aspirateur à odeur, parce que le monde olfactif est très très important chez les éléphants. Mmh. Mais en même temps, c'est effectivement, ça sert à envoyer sa pompe de la poussière et puis ça et de l'eau d'ailleurs, parce qu'ils
et de l'eau, ils se lavent avec ça. Ouais.
Ils adorent l'eau. Hein, ils se lavent. Mmh. Oui, bien sûr. Et puis ils se rafraîchissent. Bien que ça ait une peau très épaisse.
Mais alors vous dites l'utilité pratique pour eux. C'est quoi alors c'est une arme ou ce sont les défenses?
Alors ça sert à tout. On va continuer. Bien sûr, ça leur sert à respirer.
Exact.
Puisque c'est le nez. Hein. Mmh. Et ce qui est fantastique, c'est aussi un tuba. Vous avez peut-être
ah
vu
oui, quand ils vont se baigner.
Oui, c'est très étonnant. Moi, j'ai vu des éléphants traverser des plans d'eau ou des fleuves où ils n'avaient pas pied. Ils marchaient sur le fond. Et ils avaient la trompe en l'air,
ouais.
Et on voyait juste un tout petit truc, mais n'empêche que ils respiraient par là. C'est un tuba, quoi. Alors, c'est un organe préhensile extraordinaire, donc c'est une arme extraordinaire, hein. Parce que c'est pas fait pour taper, mais c'est fait pour attraper et lancer, par exemple.
Oui, enfin moi me rappelle dans un cirque ici à Bastia, on était à un reportage il y a de nombreuses années de ça. Le preneur de son qui était à côté de moi s'est pris un coup de trompe gentiment, c'était pas agressif. À mon avis, il doit s'en souvenir encore. Hein.
Oui, bah c'est tout à fait. Mais il prend aussi, vous savez, on voit les images de lorsque des lions veulent un petit peu rouler l'orchestre en disant qui c'est le roi de la brousse. On le sait tout de suite, hein, s'il approche trop,
en l'air, quoi.
Il l'envoie en l'air, après il le piétine. Hein, donc, mais il l'envoie en l'air avec la trompe. Et puis ça sert aussi à barrir. Hein, puisqu'ils
et oui, le son.
Même,
ça semble...
ils ont un monde sonore extrêmement important, bien sûr. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que il semblerait que les évolutionnistes se sont penchés là-dessus. Pourquoi ces bestioles ont le nez en plein milieu de la figure? Parce que c'est pratique et pas pratique. Il y a quand même énormément d'autres animaux qui sont pas comme ça. Il y en a qui ont des ébauches de trompe, hein, comme le tapir. À la limite, presque la musaraigne qui a le nez tellement pointu.
Mais le fourmilier aussi.
Le fourmilier, alors lui, on sait que c'est pour aller chercher le plus loin possible, hein, s'enfoncer, mettre son nez dans des affaires qui sont pas les siennes. Hein. Et donc l'évolution leur a donné ça. Parce que c'est en rapport apparemment à la pousse des défenses. C'est-à-dire que quand vous avez de telles défenses devant, eh ben, si vous n'avez pas la gueule qui s'est rallongée, vous n'avez accès à rien.
Exact.
Donc c'est comme si on lui a fabriqué un membre préhensile, et après, bon, comme c'est parti du nez et autres, il a bien fallu aussi que les organes, enfin les fonctions du nez soient représentées.
Alors, j'ai vu un reportage qui était saisissant. C'est une mère, une éléphante, donc, qui le petit a été attaqué, il est mourant en définitive, et j'ai vu qu'elle va le humer avec sa trompe, et elle voit à ce moment-là qu'il est mort. C'est-à-dire que c'est parce que il respire plus, je sais pas, je suppose que c'est
sûrement,
ça.
Ouais.
Doit être très tactile, quoi. Cette trompe, elle est tactile, probablement.
C'est extrêmement tactile. Tactile, pardon. Il y a des tout petits poils, presque des vibrisses qui sont autour de ça aussi, alors que les éléphants, les proboscidiens actuels, sont quasiment glabres. Il y a très très peu de poils, excepté le bout de la queue. Les pauvres, d'ailleurs, ça se termine en chasse-mouche,
souvent,
c'est superbe, c'est dégueulasse. Enfin, bon.
Voilà.
On continue à faire le tour du pépère, ou on chante quelque chose?
On peut chanter quelque chose, je pense. On peut écouter Francine Massial. J'adore cette chanteuse. Elle est jeune, elle est belle, elle est sympathique, elle a tout pour elle. Et elle nous chante une chanson traditionnelle qui avait été chantée par Antoine Hinchot et Frère Vincenti.
Passa a lavora, foraggi so tutte ribe, a barca come scalone, c'è un fiume gulanguille, e un orto viene a Miloni, per finisce una giornata, come mai straziata, c'è sempre del calchettioso, un sumere lazioso.
C'était Francine Massiadi.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Avec Jean-Pierre Fleuret aujourd'hui, on évoque cet animal extraordinaire, majestueux, impressionnant, qui a l'air très placide quand on le voit comme ça à la télévision. Si vous avez l'occasion de le voir, si vous êtes allé au Kenya ou dans ces pays-là, il a l'air très placide, très gentil, mais méfiez-vous. L'éléphant, Jean-Pierre. Alors, on a parlé de cette trompe qui est assez étonnante. Moi, j'ai pris des notes. Hein, 100 kilos, c'est considérable quand même. Hein,
oui,
avec une force énorme, vous le disiez, donc c'est une arme, c'est plein de choses.
150 000 muscles, etc.
C'est un truc de fou.
Voilà.
Alors, ensuite.
On continue la tête. Il y a quand même les défenses. C'est quand même assez surprenant aussi. Bon, bien qu'il y ait d'autres animaux qui emportent. On a parlé des sangliers il n'y a pas longtemps. On pourrait parler des morses. On pourrait parler du narval, qui était la licorne. Hein, c'est une défense aussi. Enfin, il y en a quand même pas mal.
C'est une arme ou pas? C'est quoi alors la défense?
Ah oui. C'est une arme.
C'est une arme.
C'est une arme et un outil.
D'accord.
C'est un couteau suisse, tout ça.
D'accord.
C'est de l'ivoire, avec à l'intérieur un nerf.
D'accord.
Comme une dent.
Eh oui, pareil.
Ben oui, puisque c'est une dent.
Eh oui, donc il y a
Parce que les défenses sont des dents, c'est les deux incisives supérieures qui sont mises à pousser comme ça. Alors ça va jusqu'à une centaine de kilos. L'ivoire d'ailleurs, ça voulait dire, ça vient du grec, L'éléphant, ça vient du grec qui voulait dire ivoire.
Ivoire.
Donc, on est en plein dedans. Alors, ça peut faire jusqu'à 100 kilos. Le record, pour le moment, mais je pense qu'il ne sera pas égalé, hélas. Enfin, si, parce que maintenant, ils vivent effectivement sous haute surveillance pour la plupart. Et comme ça vaut beaucoup d'argent, le maxi, c'est 3,50 m de long.
C'est
pas mal quand même. Et 117 kilos. Par défense.
Par défense.
Eh ouais.
Alors, moi, je l'avais vu ça il y a longtemps, j'étais jeune à l'époque. À quoi on voyait l'ivoire vivant et l'ivoire mort. L'ivoire
on
mort
brûle.
Était pris. Non, oui. Enfin, l'ivoire mort était pris sur des cimetières d'éléphants. Donc,
ah ouais,
voilà.
Bien sûr.
Et on y mettait simplement une bougie, par exemple.
Ouais, ouais.
L'ivoire, ce qu'on appelait l'ivoire vivant, c'est abominable parce que c'était pris à ce moment-là sur des éléphants qu'on venait de tuer.
Qu'on venait de tuer, ouais.
Qui étaient roses à l'intérieur parce qu'effectivement,
ouais.
il y avait le nerf
ouais,
et l'autre, ben, il n'y avait rien du tout.
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, c'est ça grandit environ jusqu'à un certain point, hein, d'une vingtaine de centimètres par an. On rappelle quand même que ces grands porteurs, des tuskers en anglais, hein, ou en Afrikaner, peuvent atteindre 60-70 ans. C'est pas, c'est un animal qui vit très très longtemps.
Des vieux pépères.
Alors c'est dans la bouche. Hein, enfin, ce sont des incisives. Les éléphants n'ont pas de canine. La formule dentaire, c'est 6 molaires, donc en haut en bas chacun,
ouais.
et deux incisives inférieures.
Ouais, parce qu'il faut bien qu'ils mâchent.
Bah, il faut qu'il mâche et puis il mâche parce qu'il mange des choses extrêmement ligneux. On va voir que il en passe là-dedans. Après, on va voir comment ça se nourrit. Donc, ça s'use. Ça s'use. Et alors, c'est assez marrant parce que les molaires se soudent dans la gueule de l'éléphant.
Et
ça fait une immense râpe, deux immenses râpes, et qui s'usent. Et la nature leur a donné, je crois que oui, c'est de l'ordre de. Je crois que c'est 6 jeux de dents. Au bout de 6 jeux de dents, fini, il n'y a plus rien.
Non,
ils sont sur les gencives.
Ah ouais, non, on n'en a qu'un jeu.
On n'en a qu'un jeu. Mais
deux jeux.
Oui, on a nos dents de lait. Mais eux aussi ont des dents de lait. Hein.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Et je crois que tous les mammifères en ont d'ailleurs. Ensuite, il n'y a plus de dents. Donc, ils sont obligés d'aller manger des herbes relativement plus molles que les choses ligneuses qu'il y a. Et c'est pour ça qu'autrefois, quand il y avait beaucoup d'éléphants et qu'ils s'arrêtaient dans les migrations. Parce que ça migrait, ça traversait l'Afrique. Avant, il n'y avait pas de route, pas d'autoroute, pas aucune contrainte. Donc ils avaient leur vert pâturage, référence aux racines du ciel hein, de Romain Gary. Hein, et les vieux restaient aux endroits où l'herbe était tendre. Et comme ils restaient tous à cet endroit-là, ils crevaient à cet endroit-là. Et c'est l'histoire des cimetières d'éléphants.
C'est bien les éléphants.
Ouais. Hein, qui est très poétique, mais qui en même temps est extrêmement pragmatique. Quoi. On va arriver au cerveau, pourquoi pas, hein, puisqu'il est.
Ah, oui.
Alors, il a une tête énorme, hein, cet éléphant. Les os du crâne, d'ailleurs, sont spongieux, hein, parce que ce serait trop lourd autrement. Alors, effectivement, il a un cerveau qui fait 5 kilos, mais c'est le plus petit cerveau, si on rapporte à la proportionnalité, c'est le plus petit cerveau des mammifères.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que la souris, elle a une grosse tête par rapport à lui, hein, si on rapporte à la. Hein, donc, pourtant, effectivement. Il a une mémoire d'éléphant. Hein.
Alors,
puisque
j'ai regardé un truc, Jean-Pierre, excuse-moi de vous couper,
puisque
vous parliez des autres animaux. Je disais tout à l'heure 35% de son poids adulte quand il était enfant, le cerveau, mais effectivement 54% chez le chimpanzé au même âge,
et voilà.
90% chez le veau, et chez le nouveau-né humain, c'est de 28%.
Mais ça se remplit très vite.
Ça se remplit très vite,
ouais.
Et la mémoire d'éléphant, ça vient de là, alors?
Bah, il a une mémoire d'éléphant parce que effectivement, par exemple, on évoquait tout à l'heure les déplacements, les racines du ciel. La matriarche, hein, c'est elle qui mène
la
horde.
C'est la patronne. Hein.
Elle a une carte de l'Afrique dans sa tête, dans son GPS, avec les points d'eau.
Ouais, alors ça j'ai vécu ça.
Fantastique ça.
Effectivement, ouais. C'est, d'ailleurs, la mémoire d'éléphant viendrait de ça, des points d'eau. Quoi.
Et puis aussi, il y a le fait qu'ils sont capables de rancune. Dans certains villages africains, tout le monde dit c'est joli les éléphants. Encore une fois, nous on a déjà du mal avec nos sangliers. Imaginez eux là-bas quand on dit il y a des dégâts de sangliers. Eux quand ils ont des dégâts d'éléphants, il y a un tas de vilaines choses qui sont inventées pour essayer de les dissuader ou même de les tuer parce qu'autrefois c'était aussi gros la viande tout ça. Hein, ça faisait de la viande.
Alors justement, Jean-Pierre, il expliquait que en parlant de mémoire, quand j'étais au Burundi, au Rwanda, donc ils étaient juste en face, les chasseurs disaient que les gens qui s'exprimaient en Maasai, par exemple, qui étaient dangereux parce que c'était des chasseurs, eh ben, les éléphants se regroupaient, ils étaient en système alerte. En revanche, quand il y avait des voix d'hommes qui parlaient soit en swahili, soit dans une autre langue qui s'appelle le kamba, là, en revanche, c'était différent. Ils étaient moins perturbés. Et les voix d'enfants ne les perturbent pas non plus. Donc ça veut dire
Sûrement, mais ça montre une mémoire, quoi. C'est une mémoire et une intelligence. Alors, on va arriver à l'intelligence, justement, avec ce petit cerveau. Le fameux test du miroir. Vous savez, le test de Gallup.
Non, je ne connais pas.
Bon, on va vous le faire.
Allez-y.
Vous allez vous peindre quelque chose sur le front.
Oui.
Hein, vous allez vous regarder dans un miroir.
Oui.
Bon, on peint quelque chose sur le front de l'éléphant. Il se regarde dans un miroir, il va essayer d'effacer la tache. C'est-à-dire qu'il a compris que c'est son image à lui.
Ah, c'est dingue, ça.
Eh oui. Hein, ouais.
Ça, c'est beau.
Et aussi la rancune. Alors, vous parliez tout à l'heure de la mémoire d'éléphant, des Swahili, pas Swahili et autres. Quand il a eu un maille à partir dans un village, il peut effectivement s'en aller parce qu'il a eu peur, mais il peut très bien revenir 2 ou 3 ans après pour
se venger. Même village.
Dans le même village. Alors, on disait autrefois que c'était des éléphants qui étaient amok, parce qu'ils étaient cinglés, mais ils venaient simplement régler leurs comptes, quoi. Et quand un éléphant vient régler ses comptes,
il les règle, quoi.
Tout le monde s'écrase.
C'est clair, c'est le cas de dire.
Alors, on continue sur il a un cœur d'athlète, hein, qui est bien sûr proportionné, parce qu'il faut envoyer du sang. C'est un peu comme le même problème que pour la girafe. Hein, il faut envoyer du sang au bout de la trompe, par exemple, ça fait loin. Mais en même temps, il bat à 30 pulsations par minute.
Ah oui.
D'ailleurs, il y a une règle, plus les animaux sont gros, moins ça bat vite. Et plus ils sont petits, plus ça bat vite. J'évoquais tout à l'heure la musaraigne étrusque, son cœur bat à 1000 à l'heure.
D'accord.
Hein, c'est un tout petit truc comme ça, le cœur, c'est-à-dire que c'est un truc qui doit être gros comme, je sais pas quoi,
une tête d'allumette.
Une tête d'allumette, quoi. Et ça te fait une... le squelette.
Et ça vit pas longtemps, du coup.
Non, ça pas du tout. Le squelette, il est très fort. Hein. Il faut supporter la masse.
Le poids.
C'est assez marrant. L'éléphant, c'est une danseuse qui fait des pointes. C'est un artiodactyle, donc il marche sur le bout de ses pieds, sur la pointe des pieds.
D'accord.
Donc il y a une pression énorme là-dessus. Alors les pieds, on a vu comment c'était fait. On a parlé du nombre de doigts, etc. Et il y a des coussins en dessous. Hein, et ces coussins, c'est assez étonnant. Il y a des empreintes digitales. Hein, on peut dire que c'est les pieds, donc les doigts. Et chaque pied est différent. Donc, on pourrait
faire. C'est pas les mêmes, les quatre.
D'un éléphant à l'autre.
Ah, d'un éléphant à l'autre.
On peut lire les empreintes digitales d'un éléphant à l'autre.
Comme nous, quoi.
Comme nous, exactement. La forme des pieds avant, la marque, c'est rond. Ouais. Les pieds arrière, la marque, c'est ovale. Enfin bon, c'est le jour où vous redeviendrez pisteur. Les os du crâne, par exemple, sont spongieux.
Ce serait
trop lourd, ils auraient la tête qui partirait devant. Quoi. On passe sous le pépère.
Allez, sous le pépère. La zigounette.
Ah bah la zigounette, cher monsieur, c'est quelque
chose. S'il vous plaît.
Quand monsieur est en forme.
Oui. Hein,
qu'entendez-vous par là? J'entends rien. Quand monsieur est en forme, hein, ben il a toute raide et toute verte.
Ah.
Bah vous n'aimez pas le vert.
Non.
Les couleurs, c'est le.
Ouais, ça c'est clair. Ouais.
Bon, c'est quand même c'est une chose qui fait.
Et c'est proportionnel à sa taille, quoi.
Ah bah oui, ça c'est bien sûr. Hein. C'est un mâle adulte, hein, d'éléphant d'Afrique. Ouais. Enfin, ça fait quand même 1 mètre de long et 15 centimètres de diamètre.
Et qu'est-ce qu'elle doit déguster, la femelle,
quand ça ne dure pas longtemps, justement, parce que pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que si ça durait longtemps, elle serait écrasée.
Mais oui, elle serait écrasée par le poids.
Mais la plupart des accouplements chez tous les animaux, c'est bonjour, au revoir.
Bonjour, au revoir, oui.
Hein, le brame du cerf, ça dure... Il fait ça comme un cerf, mais il ne fait pas ça longtemps.
Hein, c'est comme un lapin, quoi.
Et
dites-moi, ils se battent entre eux, justement, aussi, pour les
femelles. Ah oui, il y a des combats. Alors, il y a toute une montée. Le rut, c'est quelque chose. Hein, il y a une montée, il y a une hormone. Enfin, c'est même un liquide qui s'appelle la frontaline, qui est bourré de testostérone. Et ça leur coule. Il y a des quand on regarde les photos des mâles, il y a des femelles aussi, d'ailleurs, mais ce n'est pas tout à fait le même hormone. Il y a des trous, j'allais dire, devant les oreilles, à la hauteur des pommettes.
Oui, et ça s'écoule par là.
En période de rut, ça s'écoule par là. Bon, on voit, on a dit facilement que monsieur est en rut parce qu'il le montre. Il n'arrête pas aussi, peut-être parce que justement il est en chaleur, il se ventile avec ses oreilles. Parce que les oreilles, c'est un organe qui sert aussi énormément à la régulation thermique. Hein, et alors là, c'est justement des animaux qui font très peu de petits, qui sont pubères très très longtemps après la naissance, puisque c'est chez les mâles, ils sont pubères à 15 ans.
Ah oui, c'est tard, quoi.
Le premier rut à 25. La femelle, elle peut avoir ses premières chaleurs à 9 ans, mais c'est pas trop ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive, elle fuit dans le. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le rut, à 25 ans, ça dure quelques jours. Chez les mâles, hein, la période de rut. De 35 à 40 ans, c'est 2 mois.
Ah oui.
Après 40 ans, c'est 4 mois. Et vous faites quel âge, vous?
Non, je dois pas mon âge.
D'accord.
60 ans.
En rut pour de nouvelles aventures.
Vous avez raison. Oui. Il a qu'une femelle? Il reste en famille ou
non,
pas?
Non, c'est le chef de celui qui a la harde. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a des bagarres énormes. C'est, à chaque fois qu'il y a bagarre dans une espèce, ça veut dire que c'est pour dominer un harem, pour se constituer. La gestation est extrêmement longue. Entre 20 et 22 mois. Donc c'est une. La femelle allaite, enfin le petit est allaité jusqu'à l'âge de 4 ans.
Waouh.
Hein, avec le poids à la naissance, il fait une centaine de kilos, on l'a dit. Hein, c'est même pas.
Vous avez goûté du lait de.
Non, c'est pas facile à traire. Hein.
Oui, je m'en doute. Oui. Marqué, ce qui n'est pas facile à traire aussi, je veux pour preuve nos amis qui ont la zinerie à Irous, très rude à l'aise, hein, c'est pas mal.
Oui, un bouc non plus d'ailleurs.
Ah non plus, ouais. On est fou. On est chou.
Le petit, il boit quand même 11 litres de lait par jour.
Oui.
Et ça, donc ce qui fait tout ça, c'est très long. Et il a un petit, donc il y a un petit tous les 5 ou 6 ans.
Et alors, quand on voit ces films animaliers, Jean-Pierre, vous avez filmé tout ça, on a l'impression qu'il y a un groupe organisé. Le mâle, il est quand même, il défend un tout petit peu femelle avec son petit.
Oui, tout à fait. Hein, Oui. Le mâle est présent, il s'isole pas, sauf quand il est en vraie période de rut, parce que là, il va butiner un petit peu.
Oui. Hein.
C'est-à-dire qu'il va essayer de c'est un peu comme les cerfs, de regrouper le plus possible de femelles, et donc il va sur d'autres hardes, et pour essayer de les récupérer. Là, il y a
oui. Mais Jean-Pierre, entre eux, puisque l'on parle de la famille, du petit, tout ça, alors ils communiquent, je suppose, par les sons, le barrissement, suppose, mais il y a aussi autre chose. Vous parliez des oreilles tout à l'heure. Quand ils communiquent entre eux, il y a le son, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que le son.
Alors il y a les oreilles. Les oreilles servent aussi. La position des oreilles doit bien sûr une importance.
Et le danger,
les chats, etc. Et puis il y a le monde olfactif qui est extrêmement important. D'accord. Il y a des glandes partout. Là, on a parlé juste des choses qui sont en dessous, mais puis aussi bien sûr les marqueurs, la frontaline dont je parlais, ça c'est un marqueur extraordinaire. Hein.
Par le toucher, donc il communique aussi par le toucher.
Alors il communique par le toucher, bien sûr, grâce à la trompe.
Hein. Ah oui.
Où il y a un tas de comportements d'apaisement qui peuvent se faire. On les voit quand on fait l'anthropomorphisme, et pourquoi pas, on a l'impression qu'ils s'embrassent. Hein.
Oui.
Il y a un tas d'informations qui sont données là-dedans. La fréquence des sons qu'ils perçoivent, c'est pas la même que celle des humains. Il y a des choses dans les graves qu'on n'arrive pas, nous, à percevoir.
Comme les dauphins. Comme les dauphins.
Ils doivent percevoir la plante de leurs pieds. Enfin, ce qu'on pourrait appeler les coussinets, c'est extrêmement sensible. Ah, donc, là aussi, il y a un tas d'informations. Cela dit, nos pieds, si on savait encore s'en servir.
On aurait la même chose.
Il y a un tas d'informations, mais on a tout le temps des semelles. Mais reprenons le plaisir de marcher pieds nus. C'est incroyable le nombre de sensations qu'on peut avoir et d'informations.
Hein. Alors, ce qui veut dire, parler d'informations, vous parlez des pattes, Jean-Pierre. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se passer des infos en étant distants les uns des autres de manière importante aussi. Puisque...
Ah bah, de toute façon, les barrissements.
Ça
s'entend à 3 km hein, quand c'est à bon vent. Et je vous assure que moi, j'en ai entendu qui partaient de 15 ou 20 mètres de moi dans la forêt, ça vous dresse le poil.
Mais ça entend.
Vous dites, parce que là, d'un seul coup, vous savez que vous êtes à sa merci. C'est lui qui décide de nous considérer comme juste un tout petit truc. Quoi.
C'est le patron.
Et il faut, bien sûr, ça ce sont des chasses ethniques, mais il faut penser aux pygmées, par exemple, qui le font peut-être encore maintenant. Qui vont avec des flèches, hein, des sagaies, première chose, ils se roulent dans des excréments pour sentir, donc pour effacer complètement leur odeur. Ils creusent un trou à l'endroit où ils savent qu'il y a un passage d'éléphant, hein, et ils attendent. Et quand les éléphants sont au-dessus, ou même parfois ils savent les approcher parce qu'ils ont tellement peu d'odeur, ils se glissent en dessous et là, un coup de lance. Il faut quand même être sérieusement gonflé. Hein, c'est autre chose que de tirer avec des carabines de Hollande et Hollande. C'est un animal, il a des particularités à cause de son poids. Il est incapable de sauter, par exemple.
Oui, ça peut se comprendre. Ouais.
Il ne peut pas courir, au sens propre du terme.
Oui, parce qu'il galope un peu.
Il marche très vite. Ah, ouais. Il est au pas. Mais il peut faire du 25 à l'heure. Vous voyez, il allonge les pattes comme ça. Là,
quand il charge à 25 à l'heure, ça fait drôle. Ah,
complètement, ça, c'est bien sûr.
Souvent, Jean-Pierre, ce qu'on voit à la télévision, quand il vous charge, il a les oreilles comme ça, bien ouvertes, et puis il s'arrête à un moment donné, et puis il tape sur le sol.
Il y a tout un langage que moi je ne sais pas lire.
Moi non plus.
Que les guides savent lire, et il faut, à un moment donné, c'est la dernière sommation.
Oui, c'est maintenant, tu t'en vas, sinon la prochaine,
c'est pour toi. Il y a beaucoup de
sommations,
parce que la prochaine, c'est pour toi. Voilà, c'est exactement ça. Et il y a, hélas, constamment des accidents, avec des gens qui filment, parce qu'ils en veulent toujours un petit peu plus. Parce que quand vous avez, maintenant moins, mais nous on filmait en film, donc quand on a l'œil dans l'œilleton, on ne voit pas du tout ce qui se passe à côté. Et donc, à la limite, suivant la focale qu'on a, on ne sait pas à quelle distance on est. Et donc, on ne veut pas partir, parce qu'on a une image extraordinaire. Mais des fois, il a fait chaud.
Oui, en tout cas.
C'est un gros bonhomme qui mange énormément.
Ah oui,
on peut lui reprocher parce que c'est aussi un énorme gâcheur. Et là, on arrive justement au problème de population ou de surpopulation. Dans les grandes réserves comme Etosha ou autres, il n'y a plus un arbre.
Parce que
le gros pépère, il y a là-haut, il y a un fruit simplement, qui est mûr. Il va faire tomber l'arbre, des arbres qui ont 50 ans, pour bouffer juste ce fruit. Donc, parce qu'il a besoin d'un bol alimentaire énorme. En saison sèche, il mange pendant 18 heures par jour. Il fait que ça. Parce qu'il faut qu'il en avale. Alors, il y a une grande variété de végétaux, toujours extrêmement ligneux, parce que c'est des végétaux du sec. C'est de l'aridité de la savane, très souvent, sauf les fruits qui leur filent aussi des fois. Ça fait du bruit, les éléphants, mais pas que par la trompe.
C'est vrai.
Et donc, il mange entre 150 et 180
kilos
en saison sèche.
Oui, mais l'éléphant flatule. Voilà.
Lâchez-le. Et le lapin pète, c'est ça ?
Et le lapin pète.
D'accord. En saison des pluies, comme c'est mouillé, enfin c'est jusqu'à 250 kilos. Il boit 150 litres quand il y a de l'eau à proximité. Et il peut rester 4 jours sans boire, ce qui n'est pas très long.
Mais il n'a pas besoin d'avoir tout le temps le corps avec de l'humidité parce que
Non, parce que c'est un pachyderme. Donc pachyderme, ça veut dire pachy épais, le peau épaisse. Donc cela dit, ce n'est pas pour ça, parce que l'hippopotame aussi est un pachyderme. Mais l'hippopotame, lui, il attrape des coups de soleil s'il reste à la...
Oui.
C'est étonnant. Alors effectivement, ils n'ont pas de glande sudoripare. Donc la glande sudoripare, c'est la sueur. Et puis il y a aussi les glandes qui servent, vous savez, qui donnent le... quand on appuie sur le nez, comment ça s'appelle ?
La morve.
Ce qui sert à oindre, on a l'huile naturelle qui est fabriquée. Et donc c'est ça qui empêche d'avoir des coups de soleil. Eux, ils n'ont quasiment pas de ces glandes, donc ils sont obligés effectivement de se recouvrir d'une carapace de boue. Il y a une chose étonnante, quand l'éléphant n'a plus d'eau, il est capable d'aller chercher de l'eau dans son estomac.
Avec la trompe.
Avec la trompe, il reboit ça, enfin il recycle. C'est un énorme gâcheur parce que on s'aperçoit quand on suit des éléphants, l'expression est africaine et je la trouve charmante, ils font souvent cabinet.
Et oui, ils font popo partout.
Ils font popo partout et donc il y a une quantité énorme d'excréments parce qu'ils digèrent très mal. Ils ont un boyau, c'est pas des ruminants. Effectivement, ils ont un tube digestif qui est très long, qui fait 40 mètres, mais qui digère simplement, je crois, c'est l'ordre aussi de 40% de ce qu'ils pourraient.
Et on le voit d'ailleurs dans un excrément de.
Ah oui, il y a tout dedans. Tout le monde va manger dedans. Les singes, bien sûr, les bousiers et autres.
Sur la vie sociale, Jean-Pierre, de l'éléphant, on a parlé de la période du rut, on a parlé de l'éléphant mâle qui peut défendre sa femelle, éventuellement le tout petit. Ils vivent en groupe d'habitude, ils sont tout le temps groupés.
Ah, ils sont en groupe parce que, de toute façon, alors, c'est des animaux qui n'ont pas de prédateurs, sauf quand ils sont petits.
Ah oui, c'est un petit.
Et là, après, c'est la loi du nombre. Il y a ces merveilleuses images qu'on connaît, parce que la limite, maintenant, on connaît mieux la vie des éléphants que celle de nos lapins.
Ça, ah oui, ça. C'est, ouais.
Et on voit les mères regrouper le petit entre les pattes de la mère. Hein, et puis les lions qui auraient encore une fois la drôle d'idée de venir, ou les hyènes et autres, ou les lycaons, parce que ceux-là c'est des fous qui s'attaquent à tout, c'est très très rare qu'ils aient le dessus. C'est tout le temps le groupe et la force des éléphants et l'agilité et le courage, etc. C'est vraiment l'image complète de la force, de la solidarité, quoi.
Mais on a vu des images qui sont passées dans les journaux de 20 heures. On les avait vues, Jean-Pierre, probablement de cette femelle. Il y a ce petit éléphanteau qui est en train de se noyer parce qu'il a pris le cours d'eau.
Il a
pas obéi. Et en définitive, ils arrivent à le rattraper. Mais celui-là, il a compris la vie, quoi.
Sûrement.
À mon avis, c'est vrai.
Oui, tout à fait.
Et puisque l'on parle de ça, Jean-Pierre, on va écouter une chanson.
Eh ben tiens, on va dire avant que ce qui est plus fort qu'un éléphant, c'est la brousse.
Ah, je pensais un éléphant, je pensais que c'était deux éléphants. C'est la brousse. Eh bien, on va parler de la brousse, pas le fromage.
Qui n'est pas un fromage.
Qui n'est pas un fromage, bien évidemment. Allez, on écoute une chanson, on se retrouve avec Jean-Pierre.
Au-delà des orages, je pars en voyage. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément.
Le cœur éléphant avec Frérot de la Vega. Et nous allons reparler des éléphants et de la brousse.
Naturellement vôtre. Quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
Et on vous parle de ce pachyderme aujourd'hui avec Jean-Pierre. Alors c'est vrai que ce qui est important pour l'éléphant, c'est son élément naturel, et c'est la brousse.
Exactement. Et là, j'essayais d'ajouter que c'est pour ça que les voir en train de tourner dans un cirque ou autre, c'est pas ma tasse de thé. Ça ne sert plus à grand chose, quoi, maintenant.
Sauf dans les réserves, Jean-Pierre, peut-être, ou là, peut-être, on, peut-être, pour peut-être. Sauvegarder l'espèce.
Je dis bien peut-être. Bon. En tout cas, ce qui serait inadmissible, et je pense que ça ne se fait plus, c'est de prélever des animaux dans la brousse pour aller les mettre dans les cirques ou dans les zoos. Je crois savoir que maintenant, en tout cas, dans les législations des pays avancés, ils se reproduisent dans les zoos. Donc là, de toute façon, il ne serait pas question de les relâcher. Alors, c'est vrai que la longue histoire des éléphants et de l'homme, ça date depuis fort longtemps. Il sert à tout, je veux dire. Bon, effectivement, c'est un artiste de cirque. On le représente même avec des jupes et autres. Enfin, bon, c'est des tracteurs extraordinaires, ça. Moi, les voir bosser, c'est nonchalant. C'est des diesels, quoi, c'est certain. Ça peut bosser pendant très longtemps, apparemment. C'est quand même assez sur la contrainte, hein, quand on voit les cornacs ou les mahouts, ils ont quand même un outil qui est très pointu dans les mains, une sorte de harpon, parce que effectivement c'est pas naturel chez eux, et ils sont soumis au départ, hein. Il y a quelques années d'apprentissage qui sont extrêmement durs, quoi. Ils sont d'abord attachés très serrés avec des chaînes, après un petit peu moins, on leur donne pas à bouffer, enfin c'est un dressage qui est très archaïque, qui est d'un autre temps. C'est assez extraordinaire parce qu'il n'y a même pas besoin de les nourrir. En Malaisie en particulier, moi j'avais vu ça, les éléphants rentrent du travail, ensuite on les lâche. On les lâche avec une chaîne qui tient à rien, qui est juste pour laisser une trace à l'endroit où ils sont passés. Et ils ont tous une cloche, un petit peu comme les clarines qu'il peut y avoir. Et c'est des cloches de bois et chacune donne un son différent. Hein,
le ils mammouth, reconnaissent comme ça.
Quoi. Ils reconnaissent, les éléphants. Ils vont les chercher à un endroit où ils sont, des fois 1 ou 2 kilomètres de la maison. Quoi. Donc c'est très facile. On a parlé grâce à la trompe et haute, c'est capable de transporter des choses.
Des billes de bois, c'est impressionnant.
Exactement. C'est un soldat. Hein, on se souvient des.
Ah ouais.
Des éléphants d'Hannibal en particulier, ceux de Pyrrhus d'ailleurs, hein, parce que demi-victoire, hein, la victoire à la Pyrrhus, tout le monde est mort, sauf les éléphants. Il y avait d'ailleurs eu un drôle de truc dans cette bataille, c'est que les éléphants de Pyrrhus étaient... les éléphants de Pyrrhus ont eu peur des troupes romaines à cause de des corps, ils ont eu peur du bruit. Et ils sont revenus... plein pot vers les armées de Pyrrhus, et là, ils ont écrasé tout le monde.
Ils ont écrasé tout le monde.
Donc,
et puis ils ont servi, quand on voit ces films historiques, notamment en Inde, les Maharajas qui chargeaient les troupes,
les tigres,
et puis les troupes anglaises.
Oui, oui, bah, ça fait ça. Vous imaginez le type, le paysan du Sussex qui se retrouve là-bas et qui se retrouve chargé par des bestioles comme ça.
Puis,
imaginez les premières personnes qui ont vu des éléphants, ils ne pensaient pas que ce soit possible d'exister. Ça n'existe pas. C'est des anomalie.
Hein. C'est clair.
Bon, après, effectivement, c'est devenu... Alors, il y a eu les éléphants aussi qui ont servi dans les dessins animés. Il y a eu Babar, qui est très célèbre.
Hein. Attendez, juste dans l'histoire, Jean-Pierre. Napoléon n'a pas utilisé les éléphants.
Hein. Si, il a essayé, je crois.
Il a essayé ?
Oui, oui. Mais alors, c'en est devenu un, d'ailleurs, mais c'est devenu un éléphant politique.
Et voilà. Hein,
c'est-à-dire que
c'est... éléphants du PS.
On parle des éléphants du PS, et de manière assez étonnante, chez Monsieur Trump. Il est du parti des éléphants, hein, puisque les éléphants sont les conservateurs et les ânes sont les démocrates. C'est assez étonnant. Hein.
Mais celui qui est le plus connu, c'est Hannibal, quand même, Jean-Pierre, non? De franchir l'école dans la neige.
Ah oui, oui, vous rendez compte, le boulot, en plus, c'est avéré maintenant, apparemment, en tout cas, c'était des éléphants d'Afrique, ceux qui sont réputés, indressables maintenant, quoi. Mais les éléphants, surtout ceux-là, pourquoi pas, on peut imaginer qu'un éléphant asiatique était en contact avec le froid.
Oui.
Un éléphant de l'Afrique, la savane, ça devait lui faire drôle,
c'est
parce
bizarre,
que, il a pas le poil long, hein. Alors, justement. Ceux qui avaient le poil long, c'est les représentants, c'est les mammouths.
Alors ceux-là, ils l'avaient, oui.
Ils l'avaient parce que ils vivaient. Des animaux des glaciations qui étaient dans le froid. On se souvient qu'il y a 15 000 ans, ils gelaient à Pierrefendre, à Mazamet et autres. Il y avait des mammouths. Hein, puisqu'on en retrouve sur les dessins des peintures pariétales, 20 000 ans, 30 000 ans, pendant toute cette période de glaciation. Et ce qui est assez étonnant. Alors mammouth, le nom, c'est un mot qui vient d'une langue sibérienne, qui veut dire les géants, l'animal gigantesque qui sort de la terre. Ça veut dire donc que c'est un mot moderne. Donc les seuls qu'ils aient vus, c'est squelette de mammouth qui sort du permafrost, qui dégèle plus vite que maintenant, mais qui a toujours dégelé pendant l'été, avec tous les mouvements de terrain et tout ce que ça peut donner. On se rappelle que effectivement, c'est des animaux très anciens, les mammouths. Mais dans l'île Wrangel, qui est une des îles là-bas, il y avait ces fameux mammouths laineux, qui étaient un peu plus petits, mais qui étaient beaucoup plus laineux que les autres, avec des poils qui faisaient 1 mètre de long, etc. Ils ont disparu il y a 3000 ans. Il y a 5000 ans. C'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire le moment, alors j'ai regardé un peu pour avoir des références, c'est le moment où les Sumériens inventaient la roue.
Bien, c'est curieux.
Hein, il y avait encore des mammouths. Les premiers hiéroglyphes commençaient à être gravés. Donc c'est pas des animaux lointains, c'est des animaux qu'on pourrait qualifier de proto-historiques ou d'historiques. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le mastodonte et mammouth, c'est pratiquement la même bestiole. C'est un nom. Mastodonte, c'est assez marrant d'ailleurs. C'est une référence aux dents. Hein. C'est le masto
les grandes
et odonte. C'est par rapport à la forme des molaires où ça va se nicher.
Ah oui, je pensais que c'était par rapport aux grandes défenses, moi.
Alors on va démonter. On va regarder comment c'était fait. Allez, vite. C'est un animal qui est adapté au froid, avant tout. Hein. 8 cm de graisse, 2 cm de peau et 3 sortes de poils, dont certains d'un mètre de long.
Hein.
Un clapet anal pour ne pas avoir froid, puisqu'il paraît que c'est par là qu'on attrape du mal. Hein. Ils peuvent résister à moins 50.
C'est pour ça qu'on met des pantalons, non ?
Voilà, des pantalons longs ou un clapet anal.
Aussi, oui.
Alors, il y avait plusieurs qualités, si je veux dire. Le mammouth des steppes, hein, le plus gros, 10 tonnes. Des défenses recourbées vers le haut, comme vous disiez tout à l'heure, 5 mètres de long.
Hein. Pas mal.
Bon, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a encore des mammouths vivants ? Est-ce que vous me posez la question ?
Je vous pose la question. Je peux vous la poser, la question.
Il peut me la poser.
Je vous la pose.
Voilà. Donc, il y aurait un troupeau qui aurait été vu en 1917. En 1944, il y a des pilotes qui aperçoivent dans la steppe. Des témoignages réguliers en 75.
Il fumait quoi à l'époque?
Oui, le bas du poil de mammouth.
Ouais.
Question, est-ce qu'on peut, avec de l'ADN, reproduire chose? Pas encore.
Pas encore.
Patientons. Bon.
En tout cas,
que ce soit bien.
Moi, ce que j'ai trouvé remarquable chez ces animaux, c'est la vie sociale. Ils sont attentifs à leurs congénères qui sont blessés. Il y a des rites funéraires. Enfin, il y a plein de choses chez les animaux qui sont. C'est un exemple peut-être. Hein. C'est un exemple. Et c'est vrai qu'avec Jean-Pierre, nous, dans les cirques, c'est pas notre tasse de thé. Dans les grandes réserves, à la limite, quand ils ont des grands territoires. Mais bon, quand on voit les territoires qu'ils ont, quand ils se reproduisent dedans, dans les réserves.
Il n'y a pas de liberté quand on bute sur une clôture.
C'est clair. Mais voilà, si vous voulez les voir, il y a un endroit magique, c'est au Rwanda, qui est au pied du mont Kivu, où vous avez là quelques éléphants. Il y a notamment des éléphants suite à une éruption. On vous montre des éléphants qui ont été fossilisés, quoi. Je veux dire, ils ont été pris. Il y a une troupe d'éléphants. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais les gens, ils vont exprès. Il faut tomber dessus. Quand le brouillard s'en va, vous avez une troupe d'éléphants qui a été pris, paraît-il, par les poussières du mont Kivu qui était en éruption. Et voilà, c'est beau. Bon, bah écoutez, bon Jean-Pierre, nous on va se retrouver la semaine prochaine parce que on a vu ça, nous. Hein, voilà. Même endroit, même radio. Il fait bon, on est bien ensemble et on va se quitter avec la famille éléphant, bien sûr, les Turikunda, parce que bon, quand je parle d'éléphants, je pense à eux tout de suite. Voilà, on va écouter Emma qui a l'air de leur grand succès et on se retrouve dimanche prochain, mon beau. À bientôt.
Allez. Soyez heureux.
Bien sûr.
Oh,